Les grands entretiens. Aujourd'hui, avec Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne de Grenouille. Je rappelle que vous participez au cycle de conférences organisé par Alphabetville et qui est intitulé « Esthétique et société ». Vous y aborderez la question de repenser l'esthétique pour une nouvelle époque du sensible. Je rappelle aussi que vous êtes philosophe, que vous dirigez le développement culturel du Centre Pompidou à Paris. Après avoir été successivement directeur adjoint de l'Institut National de l'Audiovisuel, puis directeur de l'IRCAM. Frédéric Kahn m'accompagne pour ces quelques questions que nous aimerions vous poser. Et comme nous n'avons que très peu de temps pour cet entretien, je vous propose de commencer sans plus attendre avec une première question. La politique, la vie politique, sociale, quotidienne, est de plus en plus soumise aux conditions de l'économie du marché. La vie culturelle, d'ailleurs, n'échappe pas à cette règle. On a même l'impression que la recherche, la création, le savoir sont au cœur et non plus en marge des lois économistes, qu'ils constituent l'enjeu majeur des luttes d'influence des puissances de l'argent. Selon vous, quelle forme d'action reste aujourd'hui à disposition des artistes, des chercheurs, des créateurs pour échapper à cet économisme quelque peu envahissant?
À vrai dire, moi je crois qu'il faut que les artistes et les, disons, les gens de ce qu'on peut appeler les choses de l'esprit s'emparent de l'économie. Je veux dire par là que je crois qu'aujourd'hui, il faut repenser d'abord ce que c'est que l'économie. L'économie, quand on écoute, Charles Silvestre ou des gens comme ça parler de l'économie, c'est les marchés boursiers, c'est les entreprises et la vie, de la production et de la consommation, disons. Mais l'économie, c'est pas ça. Ça, c'est une économie très dégradée, très abîmée, qui nous bousille complètement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie au sens où Georges Bataille en parlait. L'économie générale, ce qu'il appelle l'économie générale. Et cette économie générale, elle emporte avec elle aussi bien la question de l'économie libidinale que de l'économie tout court. Et l'économie tout court, c'est un sous-produit de l'économie libidinale. Pour moi, l'économie libidinale englobe toute l'économie. Alors, depuis environ deux siècles, les sociétés, en particulier les sociétés industrielles et surtout l'Occident, se sont reconfigurées pour faire en sorte que ce que les Romains appelaient l'osium, ce qui voulait dire, l'osium, ça voulait dire les choses de l'esprit, les choses qu'on fait pour rien, qui n'ont pas de prix. La passion qu'on peut avoir pour l'art, le souci de soi, comme disait Michel Foucault, les pratiques de ce qu'on appelait, parce que chez les Romains, ceux qui accédaient à l'osium, c'était les nobles, de ce qu'on appelait les choses nobles de l'esprit. Et dont sont issues aussi bien les mathématiques, la poésie, que le droit, etc. Tout ce qui relève de ce qu'on appelait le monde du symbolique, et qui était porté par les clercs, jusqu'au XVIIIe siècle, grosso modo, c'était coupé de la production. Il y avait d'un côté les manants, les esclaves, les serfs, les roturiers qui s'occupaient des subsistances, de faire en sorte qu'il y ait de quoi manger, de quoi se chauffer, etc. Mais eux, ils ne faisaient pas partie du monde de l'esprit. Et puis, il y avait les gens qui étaient ce qu'on appelait les clercs, pas forcément des religieux, ça pouvait être des laïcs, et qui avaient accès à l'esprit, y compris les artistes, qui étaient dans les cours des princes, de leurs mécènes. Ces gens-là étaient complètement coupés de la production. De la production, des subsistances. Mais pas des existences. Parce que ce qui fait que les existences sont des existences et pas simplement des subsistances, c'est que précisément, nous accédons pas seulement aux protéines, aux glucides, au sucre, à l'eau dont on a besoin, mais à quelque chose de plus qui est ce que j'appelle, moi, les objets du désir. Et ces objets du désir, ils étaient cultivée par des individus qui sont des gens de l'esprit dans toutes sortes de domaines, indépendamment des subsistances. Enfin, indépendamment jusqu'à un certain point, bien entendu. Parce que sans subsistance, il n'y a pas d'existence, ni ce que j'appelle, moi, des consistances. Alors, ça a changé à partir du 19e siècle, et surtout du 20e siècle. Mais ça commence dès le 19e siècle, à partir du moment où la science va commencer à travailler pour l'industrie, et je dirais à partir du 20e siècle, à partir du moment où le design, la publicité, etc., vont commencer à faire travailler les artistes, et puis les philosophes, les psychologues, les sciences humaines, etc. Bon. Et il va y avoir une confusion entre l'osium et ce que les Romains appelaient le négocium, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'osium, qui est à l'origine du mot négos, qui définit le commerce économique au sens où vous en parliez tout à l'heure. Au XXe siècle, ça s'est généralisé et aujourd'hui, on voit comment ce négoce a absorbé tout l'osium. Bon. Mais ça, c'est un état de fait qui ne reculera plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et moi, je ne suis pas pour vouloir sanctuariser la culture en disant il faut que la culture soit protégée comme une réserve d'Indiens. On sait ce que c'est que les réserves d'Indiens. Ça donne des Indiens alcoolisés, dégénérés et qui disparaissent. Donc, il faut que la culture rebondisse. Et la culture, aujourd'hui, elle a un rôle politique. Elle a réinventé une autre forme de société où la culture est en effet au cœur de la société. Parce que, par ailleurs, la culture des industries culturelles est devenu le système de contrôle des comportements individuels par le marketing, par la publicité. Et ces industries culturelles se sont mises à s'emparer du cinéma, du graphisme, maintenant d'Internet, de toutes les formes d'expression, du design, bien entendu, du stylisme, donc, etc. Et finalement, ont réquisitionné tout cela au service d'une esthétique industrielle qui est finalement la réalité de ce que 90% ou 90, à mon avis 97 ou 98% de la population vit comme sa culture. Bon. Et ce que nous appelons, nous qui sommes ce que les gens un peu méchants appellent des cultureux, ce que nous appelons la culture, c'est-à-dire les choses qui sont justement pas de cet ordre-là, ces gens-là n'y accèdent pratiquement plus. Et nous n'accédons plus à eux. Et ça, c'est catastrophique. Donc, il faut changer. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dirais que la première des choses à faire pour le monde de la culture, c'est de réinventer l'économie. Et ça, en s'articulant sur les technologies, sur les industries, parce qu'il y a des choses à faire avec le monde industriel. Il n'y a pas que des imbéciles dans le monde industriel.
À cet égard, nous sommes un petit peu dans un état de guerre, je dirais. C'est ce que vous évoquez, je crois, quand vous parlez du concept de polémologie de l'esprit. La polémologie, je le rappelle, c'est la science de la guerre.
Oui, ben je pense qu'on est effectivement dans une lutte en ce moment pour prendre le contrôle des esprits. Avec l'association Ars Industrialis, dont je suis le fondateur et le président aujourd'hui, nous nous battons pour développer ce que nous appelons une politique industrielle des technologies de l'esprit européenne, qui soit au service de l'élévation de l'esprit collectif et de toute la population et non pas de sa crétinisation comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'est absolument pas normal que la radio, la télévision et tous ces médias qui normalement sont des technologies de l'esprit qui devraient permettre de développer l'intelligence collective aboutissent à ce que nous décrivons nous comme une télévision pulsionnelle, ce que nous appelons un populisme industriel et qui fait que les gens sont toujours de plus en plus. Quand je dis les gens, je me mets dedans. Nous en sommes tous là, nous n'en rendons pas compte, mais nous sommes tous tirés par le bas, par ces choses-là, vers le bas par ces choses-là. Et ça, ce n'est pas du tout une fatalité. Et c'est notre responsabilité. Et il ne suffit pas de s'en prendre à Sarkozy, à Ségolène Royal, à François Bayrou, à je ne sais pas qui. C'est nous d'abord qui sommes responsables de cette situation.
Fred ?
Oui. Alors justement, comment projeter finalement votre vision finalement. La question était sur l'économie, même si c'est sur l'art, il y a un projet politique derrière, hein, ça semble évident. Alors comment projeter effectivement ces questions-là dans le champ politique ? Alors, il est évident qu'on est à la veille d'une échéance électorale et tout le monde se pose la question comment le pouvoir politique devrait se positionner sur ces questions, comment l'amener à se positionner sur ces questions puisque...
Je pense que c'est pas par le politique qu'on y arrivera. Je vais vous paraître peut-être extrêmement désabusé. Moi, je compte absolument pas sur le politique. Mais alors pas du tout, du tout. Et quand je dis cela... Je pense que, enfin, il suffit de regarder la campagne, le niveau de cette campagne. Je ne veux même pas discuter avec des gens de ce niveau-là. C'est pas digne de moi et c'est pas digne de nous. Je trouve ça lamentable, désobligeant. Nous ne sommes plus obligés vis-à-vis de ces gens-là. En revanche, justement, dans le monde économique, il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens lucides, n'y en a pas des tonnes, parce que le monde économique est très dur et il obnubile un peu les esprits. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions sur le fait que le modèle industriel dans lequel nous vivons est un modèle qui n'est pas durable. Je veux dire par là que nous savons très bien, par exemple, que tous les gens savent, y compris les gens qui ont des 4x4 à 500 000 francs ou à 100 000 euros, disons, qui consomment 15 litres au 100, etc., savent qu'en réalité, c'est nul de se comporter comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? C'est parce que leur vie est devenue totalement vide. Et donc, ils ont besoin de la combler par des comportements de frustration, enfin de compensation de la frustration. Et la seule chose qu'on leur offre, c'est ça. Et on sait très bien que ce qu'on leur offre, c'est un poison. C'est un poison pour eux, pour leur compte en banque, parce que ça coûte très cher, ces bagnoles, pour leurs enfants. Et ils le savent tous. Et moi, je fais la même chose, parce que nous sommes pris dans un système. Bon. Mais ce système n'est plus viable. Tout le monde le sait. Même Bush le sait maintenant. Et même lui a fini par l'avouer. Alors, nous savons qu'il faut modifier les comportements. Cette modification des comportements, il n'y a qu'une possibilité de le faire. C'est la culture. Les comportements, ça s'appelle, depuis l'anthropologie de la fin du 19e siècle, la culture. Alors, il y a la culture, au sens de ce qu'on appelle le culturalisme, qui décrit les modes comportementaux, comment je me lave les dents, comment je lève mes mômes, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle la culture avec un grand C. Mais il faut agencer les deux. Il y a quelque chose qui s'est passé de catastrophique et dont nous sommes complices, nous, les gens de la culture. Nous avons laissé la culture avec un petit C dériver, et nous sommes dit, nous on s'en fout, on s'occupe de la culture avec un grand C. Sauf qu'il n'y a plus de public, sauf que à quoi sert une culture avec un grand C uniquement pour des gens qui sont du monde de la culture? À mon avis, à rien.
C'est donc dans l'économie, dans l'industrie, qu'il faut refonder notre système politique.
Il faut discuter avec les ingénieurs, il faut discuter avec des investisseurs. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Mais... Dans ce monde-là, il n'y en a pas beaucoup, et il faut essayer avec eux de commencer à ouvrir des nouvelles perspectives.
Mais c'est quand même très fort, là, ce que vous venez de dire en amont de ma question, de dire qu'on ne peut pas se désintéresser de la chose politique, de la question politique, même si on est extrêmement déçu par... c'est a priori l'endroit où se joue la démocratie.
On ne peut surtout pas s'en désintéresser. Mais si vraiment on veut s'y intéresser, pour moi, la politique, c'est l'économie politique. Et si vraiment on veut s'intéresser à la politique... Alors occupons-nous-en de la politique, c'est nous la politique, c'est pas ce qu'on appelle les politiques. Les politiques aujourd'hui ne sont plus en phase avec la politique. Ils sont, enfin, où ils font ce qu'on appelle la politique politicienne, ils ne sont que dans la reproduction de leur pouvoir. Bon. Et ça, je le dis avec une extrême tristesse, parce que j'ai combattu ce discours pendant très longtemps, mais aujourd'hui c'est malheureusement une évidence. Il y a une catastrophe électorale qui est en train de se préparer, quel que soit le résultat, un décrochage politique, c'est très très grave. Et ce que je dis là, je ne le dis pas pour accabler ces gens qu'on appelle les hommes et les femmes politiques. Je le dis pour nous confier à nous une responsabilité. Et nous avons une responsabilité. Alors nous, qui sommes en particulier dans le monde de la culture, une responsabilité historique en ce moment. En plus, l'Europe a une responsabilité historique. Parce que nous savons très bien qu'avec la mondialisation, les modèles que nous avons élaborés il y a 2 ou 3 siècles sont maintenant dans le monde entier, et que ces modèles, il va falloir les réorienter, les réinventer. Si nous ne le faisons pas, nous, en Europe... qui le fera? Bon. Donc les Européens ont une... Parce que les Européens ont une responsabilité très particulière. Ce sont eux qui ont déclenché l'industrialisation, qui ont déclenché la modernisation. Ce sont eux qui ont le plus de recul sur ces questions. Je ne veux pas dire du tout qu'ils sont plus intelligents que les Américains, que les Chinois. Non, ce n'est pas ça. Mais le recul historique, c'est très important. Donc, et il faut qu'ils nous... Moi, c'est pour ça que j'ai compté aussi faire Ars Industrialis. Il y a des gens en Australie qui sont membres d'Ars Industrialis. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Japon. C'est pour qu'on arrive à nouer une communauté internationale de réflexion. Mais je pense que les Européens ont une responsabilité spécifique là-dedans.
Et dernière question, les endroits de pouvoir, justement, puisque là où la décision politique n'est plus vraiment un endroit de pouvoir,
je pense qu'il faut en inventer. Voilà. Il faut créer des associations, il faut créer des fondations, il faut créer des ONG, et puis il faut aussi aller trouver les gens du pouvoir là où il est aussi, et tel qu'il est. Parce qu'il y a des gens, dans le monde politique, qu'on me comprenne bien, il y a des gens très très bien. Il y a des élus formidables, il y a des élus de terrain formidables. Il y a le fameux maire de Mossartout que tout le monde connaît, que tout le monde aime beaucoup. Mais il y en a plein, des gens comme ça. Enfin, plein comme lui, peut-être pas, mais il y en a d'autres. Moi, j'en connais beaucoup d'autres. C'est souvent des élus locaux, évidemment, en effet. Mais il n'y a pas que des élus locaux. Il y a aussi des sénateurs, il y a aussi des députés qui sont des gens très très bien. Mais ils sont écrasés par les structures des partis. Bon, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au PS. Ils sont totalement explosés. Bon, mais c'est pareil à l'UMP, hein, c'est pareil à l'UDF. Enfin, vous voyez bien que toutes ces structures sont en train d'exploser. Il n'y a que le Front National, finalement, qui a l'air de... Bon, mais, enfin, qui est toujours égal à lui-même. Mais après, il y a aussi les structures européennes. Et il faut absolument aller trouver ce qu'on appelle... les eurocrates, les gens qui sont en responsabilité de la Commission européenne, etc., les députés européens, il faut aller les voir, il faut leur faire des propositions. Ils sont perdus, ces gens-là. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, c'est à nous de faire les choses.
Avec Jean Baudrillard, récemment disparu, c'est un des derniers représentants d'une génération contestataire qui maniait allègrement le détournement, la subversion, la provocation. On leur a même parfois reproché. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de leurs actions? Est-ce que la société du spectacle, dont parlait Guy Debord, a triomphé aujourd'hui, peut-être sous la forme de ce que vous appelez, vous, la télécratie?
Oui, ça me paraît évident. Et c'est vrai que c'est intéressant de relire Guy Debord. Très très fort, quoi. C'est visionnaire. Moi, je me suis mis à lire. J'étais entre guillemets situationniste dans les années 60. J'étais très jeune, mais il se trouve que j'ai bien connu des gens très très proches de Guy Debord, qui étaient des voisins à moi. Bon, et donc j'étais à un moment donné très très proche de via les lettristes, Isidore Isou, etc. Et puis après, je m'en suis éloigné et je me suis remis un petit peu dans les 10 dernières années à lire la littérature de cette époque, et c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Il est vrai aussi que Jean Baudrillard était très lié à tout cela. Maintenant, et Jean Baudrillard, par exemple, c'est le premier que je connaisse qui ait parlé de Gilbert Simondon, qui est un philosophe très très important pour moi, dans le système des objets, je crois. Oui, c'est dans le système des objets, il parle du bouquin de Simondon qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Maintenant, je pense que ce mouvement, via 68, c'est très très vite épuisé et abîmé. Et que, je disais tout à l'heure au début de l'émission, que l'économie libidinale, c'est ce qui englobe toute forme d'économie. Les situationnistes, et je dirais surtout, encore plus Jean Baudrillard, à mon avis, ont été un peu, finalement, un peu faibles sur cette question. Parce que, et moi-même j'ai aussi subi ça très très fort, dans les années 60, on a reçu une espèce de doxa de lecture de Freud et de la question du désir via une lecture sommaire de Marcuse, qui consistait à dire finalement, il faut jouir, il faut déboulonner le surmoi, etc. Et ça, c'était des lectures très 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 superficielles de la psychanalyse. Alors, depuis à peu près 7 ou 8 ans, je relis très systématiquement Freud et la théorie psychanalytique, et je pense qu'il y a eu un énorme malentendu par rapport à ça. Et là-dessus, je pense que Baudrillard a contribué un petit peu à ça. Donc sur ce plan-là, je pense qu'il faut faire une critique positive. Après, c'est vrai que l'évolution de Jean Baudrillard à la fin était pour moi un petit peu problématique, plus qu'un peu même.
Une question qui s'adresse aux philosophes, mais qui est évidemment à de grandes résonances politiques. Est-ce que vous pensez que le malaise que nous subissons dans notre société aujourd'hui est lié à la représentation?
Alors, oui et non. Si votre question passe par ce que Ségolène Royal a pu dire, à savoir faut passer à la démocratie participative contre la démocratie représentative, ma réponse est clairement absolument non. Je pense qu'il n'y a de démocratie que représentative. C'est-à-dire que pour moi, la démocratie directe n'existe pas. La démocratie, ça suppose des représentants, dont Madame Royal est d'ailleurs un représentant particulièrement représentatif, si je puis dire, y compris dans ce que les représentants peuvent avoir de parfois stupéfiant et de non représentatif. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous vivons, il n'y a pas de doute là-dessus, une crise de la représentation, et que nous avons des systèmes de représentation qui ne sont plus représentatifs. Alors ça renvoie pour moi à des problématiques beaucoup plus, relèvent d'une certaine technicité philosophique, qui est ce que j'appelle les problèmes de trans-individuation. En gros, j'en parlerai d'ailleurs ce soir dans ma conférence, je pense que nous vivons dans des sociétés qui souffrent d'un énorme déficit symbolique. Parce que le symbolique... ça on le sait très bien depuis l'anthropologie la plus ancienne, c'est l'échange. Et l'échange, c'est ce qui fait que... le symbolon chez les Grecs, hein, d'où vient le mot symbole, le symbolon, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un symbolon? Par exemple, je rencontre quelqu'un, on prend un objet, on casse cet objet en deux, je vous donne une partie de l'objet, je garde la deuxième partie, et quand on se retrouvera, on aura la mémoire du fait qu'on a créé un lien avec cet objet, et cet objet est devenu un support de mémoire et d'obligation. Et il va être un support d'activité symbolique en réalité à partir de là. Et alors ça représente le symbole en général. Le mot est un symbole, bon, hein, du même type. On partage les mots. Si je fabrique un nouveau mot, c'est ce que je suis en train de faire quand je dis transindividuation. Bon, en fait, c'est pas moi qui l'ai formé, c'est Quaxi d'ailleurs, parce que Simonon lui parle de transindividuel. Le mot transindividuation, c'est moi qui l'ai formé. Bon, ben, ce mot-là, j'essaie de le faire partager à d'autres. On va peut-être s'entendre sur du... Oui, ce mot est intéressant, mais on va peut-être pas le comprendre de la même manière. Et puis on va discuter peut-être pendant des années autour de ce mot-là. Et ben ça va créer ce que j'appelle un circuit de transindividuation. Ce circuit, c'est extrêmement important qu'il existe, parce que c'est lui qui crée du social. Par exemple, si j'ai des enfants, je dois parler avec eux. Vous savez ce que disent les psychiatres? Ils disent qu'il faut qu'une mère parle à ses enfants parce que les problèmes d'autisme peuvent être provoqués chez les enfants par le fait qu'on ne leur parle pas assez. Il faut parler très très tôt au nourrisson, même s'il ne comprend pas, il faut qu'il entende la voix. C'est déjà un problème d'échange. Alors nous, on est dans une société où les circuits symboliques ont été court-circuités par les grands médias de masse. Et donc les gens ne participent plus à la production symbolique. Du coup, ils ne savent plus parler français, d'ailleurs, en général. Les mots se dégradent à une vitesse vertigineuse. Et ils participent de moins en moins à la production de leur espace symbolique, c'est-à-dire d'eux-mêmes. Et donc, ils se désindividuent. De ce point de vue-là, il y a une perte de représentativité. Ils ne se sentent plus représentés parce qu'ils ne participent plus au mécanisme de la représentation. Et ça conduit au fascisme. Hein. C'est quelque chose... Bon, si on voit bien qu'on est dans une situation électorale très, très populiste, bon. Là-dessus, François Bayrou, d'ailleurs, se démarque, clairement. Et s'il fait un tabac, y compris à gauche, c'est parce qu'il y a des gens qui disent « bah lui, c'est pas un populiste ». Eh oui, on peut discuter là-dessus. Mais non, mais je crois qu'il fait son succès, sa percée, comme on dit, beaucoup sur cette base, je crois. Pas seulement là-dessus, mais je pense que son point de départ, en tout cas, est là. On voit bien qu'effectivement, il y a une crise de la représentativité, je dirais, enfin simplement de la représentation. Mais là, ça revoit au sujet de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer une économie où les gens retrouvent une place, où ils existent, où ils soient reconnus, et pas simplement des espèces de pions qui n'ont plus droit, qui n'ont plus voix au chapitre, quoi.
À propos de l'apprentissage, justement, quel rôle aujourd'hui peut encore jouer l'école, l'école au sens large, hein, l'ensemble des circuits de l'éducation, pour lutter contre cette forme d'émiettement, de parcellisation de la mémoire collective de l'humanité, peut-être en référence à Foucault, à l'hypomnèse, à cette manière comme ça que nous avons de ne plus pouvoir avoir une mémoire collective, de la voir s'enfuir.
C'est un sujet très 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 difficile, mais absolument fondamental, évidemment. Pour moi, l'école joue un rôle absolument central dans tout cela, mais elle doit se réinventer de manière absolument radicale, pour beaucoup de raisons. La première, j'ai beaucoup étudié dans différents livres d'ailleurs, cette question de l'école, et j'ai essayé de comprendre la fonction de l'école. Je parle de l'école du 19e siècle, c'est-à-dire l'école laïque et républicaine de Jules Ferry. Elle a une fonction de transmission de savoir, de toute évidence, mais elle a aussi d'abord une fonction d'adoption des nouveaux modes de vie. Elle est là pour faire, d'abord pour adopter les immigrants. Quand je dis les immigrants, à cette époque-là, ça s'appelle les Bretons, ça s'appelle les Alsaciens, ça s'appelle les gens de la Creuse. Les immigrants, à cette époque-là, sont les immigrants de l'intérieur, si je puis dire. Ce sont les populations rurales qui viennent dans la ville. Et puis, il y a aussi les immigrants d'Italie, d'Espagne, enfin des pays avoisinants, qui sont moins bien lotis sur le plan économique. Mais le problème se pose déjà. Et Jules Ferry, il fabrique une machine à produire, je dirais pas simplement de l'intégration, mais de l'adoption. Je suis adopté par un pays dans la mesure où j'adopte... Bah moi, j'en ai parlé de mon cas personnel, je m'appelle Stiegler. Mon grand-père, donc deux générations, était allemand, né en Allemagne. Et mon autre grand-père s'appelle Trautmann. Donc, côté racine française, il n'y en a pas des masses. Et je me sens tout à fait français. Pourquoi ? Parce que je considère que les sans-culottes et tout ça, ce sont mes... J'ai mes ancêtres, mes pères spirituels sont les Français du XVIIIe siècle. Or là, génétiquement, c'était plutôt ceux qui étaient combattus, à mon avis. Mes ancêtres devaient les combattre. Ils étaient de l'autre côté du Rhin. Donc, ici, l'école, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait adopter une mémoire qui n'est jamais réelle, qui est une mémoire. C'est un processus d'identification, au sens où Freud parle d'identification, mais au niveau du collectif, pas simplement au niveau de l'individu. Alors, ça, c'est très, très important. C'est ce que j'ai appelé l'institution de programme. C'est-à-dire que c'est ce qui institue des programmes comportementaux typiques d'un groupe humain qu'on appelle la France, les hommes qui vivent en France. Eh bien ça, à partir des années 1920, ça va commencer à être concurrencé par les industries de programme, et non pas les institutions de programme. La radio, puis la télévision. Et aujourd'hui, il est évident que l'école va extrêmement mal, parce que la canalisation de l'attention des enfants par les médias fait qu'ils ne sont plus disponibles. Ils sont disponibles pour Coca-Cola sur TF1, mais ils ne sont plus disponibles pour l'école. Et donc, il y a un énorme problème, c'est que l'école est en train d'être détruite, non pas du tout parce que les profs, comme croit Mme Royal ou M. Sarkozy, foutent rien. C'est absolument faux, parce que c'est très dur d'être prof. Il y a bien sûr des profs qui foutent rien, mais comme il y a des gens partout qui foutent rien. Mais c'est pas... Non, la vraie question, c'est que les processus attentionnels, qui sont toujours des processus construits, aucune société n'obtient de l'attention, et chaque société se distingue par la façon dont elle obtient l'attention. Par exemple, Lévi-Strauss le raconte très bien dans Triste Tropique, vous ne pouvez pas demander à une tribu d'Indiens de vous écouter sans parler, assise pendant une heure. Parce que ça, ce sont des choses qu'on apprend à l'école, justement, à l'école occidentale. La première chose qu'on fait en maternelle, c'est d'apprendre aux mômes à rester assis un certain temps, sans parler, etc. Et il y a des tas de sociétés dans lesquelles même les adultes ne savent pas faire ça. Ça ne se pratique pas, ça n'a jamais été appris. Donc l'attention, c'est quelque chose qui se cultive, qui se forme. Eh bien, c'est ce que les industries culturelles déforment et détruisent. Parce que si on a des problèmes aujourd'hui d'incivilité, d'insécurité, etc., c'est parce que l'attention, cette fois-ci entendue au sens où être attentif aux autres, être attentionné, c'est ne pas leur marcher dessus, ne pas les taper, ne pas, etc. Quand on détruit les phénomènes attentionnels psychologiques, ça produit du manque d'attention sociale, c'est-à-dire de la violence. L'école, par rapport à ça, a évidemment une mission fondamentale, mais ça suppose qu'elle se réinvente très en profondeur. D'abord parce que vous avez employé le mot d'hypomnèse. L'école, ça a été, de Jules Ferry, c'est l'endroit où tout un chacun, pourvu qu'il fût français, citoyen français, ou vivant en France, disons, était scolarisé, donc avait le droit d'intégrer l'hypomnèse de la lettre, apprendre à lire et à écrire, et donc se configurer et s'individuer à partir de l'acquisition de cette hypomnèse. Aujourd'hui, les hypomnèses sont du côté d'Internet, sont du côté des images animées, de tout ça. Et il faut évidemment que l'école se reconfigure autour de ça. Quand on regarde ce qui s'est passé avec le plan informatique pour tous, il y a presque 20 ans, je l'ai suivi de très près, parce qu'à un moment donné, on m'a demandé d'expertiser, c'était lamentablement nul, la façon dont ça n'était pas pensé. On voulait apprendre l'informatique aux gens pour qu'ils deviennent secrétaires, ou je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas du tout le problème. C'est pas du tout le problème. Maintenant, il y a d'autres questions qui se posent à l'école, qui sont très nouvelles, dont on ne parle jamais, qui sont que, par exemple... À l'école, on est censé vous apprendre ce qu'on appelait, quand j'étais petit, moi, les sciences naturelles, qui maintenant s'appellent les sciences biologiques ou les sciences du vivant. Quand on m'apprenait, à moi, dans les années 50, les débuts, ce qui commençait par la leçon de choses, dans l'école primaire, puis ensuite les sciences naturelles, à partir de la sixième, les gens qui me faisaient les cours, qui étaient des instits, avaient reçu cet enseignement de gens qui eux-mêmes l'avaient reçu en université, qui eux-mêmes le recevaient, des laboratoires de recherche, bon, où en est la biologie dans les années 40. Bon. Et la biologie, elle évoluait à un rythme qui était relativement lent. C'est-à-dire que le temps d'évolution de la biologie était moins rapide que le temps de rotation des générations de profs. Mais aujourd'hui, moi je suis la biologie, j'écris sur la biologie. Aujourd'hui, les problèmes biologiques changent pratiquement tous les ans. Il y a eu une accélération tout à coup de l'évolution de la biologie qui est liée au fait que la biologie est devenue une technobiologie. On ne parle plus de sciences biologiques, on parle de biotechnologie. Et ça met par exemple les profs qui enseignent la biologie dans une situation catastrophique d'avoir à enseigner la biologie à des mômes qui ont entendu à la télé des problèmes posés par rapport auxquels ces profs ne sont pas capables de répondre. Mais ni eux, ni les gens du Collège de France ou de l'Institut Pasteur. Parce qu'on est dans une mutation du savoir énorme. Alors du coup, on met les profs dans une obligation de transmettre des savoirs, là où il faudrait leur apprendre à faire l'expérience du non-savoir. Ce que Socrate appelait la philosophie. C'est-à-dire de dire, oui, il y a des choses qu'on ne sait pas, il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement savoir qu'on ne le sait pas, mais il faut aussi savoir qu'il y a des choses qu'on sait. Et qu'à partir de là, il faut développer une nouvelle confiance. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus d'attention à l'école pour deux raisons fondamentales. D'abord parce que leur attention est détruite par les industries culturelles, les jeux vidéo et tous ces machins-là. Mais deuxièmement, parce qu'ils ne croient plus leurs profs. Leurs profs à qui on dit, à l'inspection générale, leur dit, il faut transmettre des savoirs. Et comment transmettre un savoir quand on est dans le non-savoir? Donc là, il y a un énorme problème, mais ça, c'est une mutation de l'école depuis sa conception par les Grecs, c'est-à-dire depuis 2500 ans. C'est un énorme travail. Personne ne travaille là-dessus. Nous, d'ailleurs, à Ars Industrialis, on va faire une séance bientôt, le 12 mai à Paris, sur ce sujet, sur l'école du non-savoir.
Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, disait Malraux, phrase très célèbre. Bon, ce 21e siècle, il est, c'est un fait. Mais pensez-vous qu'il sera effectivement en mesure d'inventer une spiritualité qui ne soit pas la mise en œuvre de techniques frelatées qui allient la magie avec la morale, ce que sont pratiquement toutes les religions?
J'y crois d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, Ars Industrialis s'est fixé cet objectif qui nous dit qu'il faut développer une politique industrielle des technologies de l'esprit. Donc nous croyons, nous, au spirituel. Le spirituel qui, pour moi, n'est pas le religieux. Il y a le religieux fait partie du spirituel, mais le spirituel dont je parle, qu'est-ce que c'est que le spirituel? C'est la revenance. C'est-à-dire que le mot esprit, qu'est-ce qu'un esprit dans une société où on pratique le culte des morts? C'est un revenant, un fantôme, autrement dit. Et il y a des, vous savez, il y a des membres fantômes, c'est-à-dire quand on s'est fait couper un bras, on sent encore son bras, il y a des idées fantômes. Par exemple, je viens de vous parler du non-savoir de Socrate. Vous avez opiné du chef et tout le monde sait qui est Socrate. Il est là, Socrate, il nous hante, il est partout, là. C'est un fantôme qui est là. Dans un langage moins imagé, on va l'appeler une idée, une œuvre, une représentation culturelle, etc. Mais qui nous hante tous au sens où il nous construit. Ça produit du nous, Socrate. Voilà. N'importe quel occidental, quand on dit Socrate, et pas simplement les occidentaux, aujourd'hui, moi, si je parle de Socrate, tous les Japonais comprendront parfaitement, ils s'identifient à Socrate. Tout comme nous, d'ailleurs, nous identifions à des personnages maintenant d'Extrême-Orient qui sont des esprits. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est ce qui se maintient à travers le temps. Et il faut reconstituer de ce maintien-là. Qu'est-ce que c'est que le maintien? Quand on dit une reine a un maintien, bon, c'est la dignité, c'est ce qui fait que le truc tient la route, bon, ça tient debout. Bah, si on veut que l'humanité tienne debout demain, il faut redonner de l'esprit. Et ça, j'y crois. Et je pense, moi, que la télévision, par exemple, surtout si elle se transforme avec sa numérisation, peut redevenir quelque chose qui donne du maintien, de l'intelligence. Ça, j'y crois beaucoup.
La spiritualité, c'est donc une affirmation de la dignité humaine?
Oui, c'est absolument, c'est ce qui fait... Nous partageons, ça aussi j'en parlais tout à l'heure, avec les protistes, c'est-à-dire les paramécies, les protozoaires, avec les limaces, avec les porcs et les babouins, l'organisation de notre système nerveux, c'est-à-dire notre système pulsionnel. Mais nous ne sommes pas des porcs ou des babouins. En tout cas, nous essayons de ne pas l'être. Parce que parfois, nous nous comportons comme des porcs ou des babouins, même bien plus souvent qu'il ne le faudrait, surtout à notre époque. Mais... en principe, ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est que nous sommes capables de passer au-dessus de nos pulsions. Qu'est-ce que c'est que la pulsion? C'est le très court terme. Il y a quelque chose, je le veux, je le prends. Ça, c'est de la pulsion. Du désir, c'est tout à fait autre chose. Le désir respecte l'objet qu'il désire. Donc, en aucun cas, il ne cherche à le détruire, mais au contraire, à le protéger. Donc, le désir, c'est l'attention. C'est l'attention au sens fort, au sens où, à l'école, on doit recevoir... apprendre l'attention. Il y a toutes sortes de discours sur le désir. Le christianisme est un discours sur le désir. Le judaïsme en est un autre. Enfin, et le bouddhisme en est également un, etc. Toutes les grandes sociétés spirituelles sont des discours sur le désir. Mais l'esprit, en fait, c'est ce qui fait que je m'élève au-dessus de mes pulsions par mon désir. Un désir qui peut être très sublimé. Ce qu'on appelle la sublimation. Bon, un artiste, c'est quelqu'un qui sublime son désir dans une œuvre... qui du coup se socialise.
Oui, c'est-à-dire ce qu'il faut surtout pas confondre, c'est le désir et le plaisir. C'est-à-dire que le désir, c'est une puissance de vie. Un petit peu, Deleuze a dit des choses très justes là-dessus. Alors que le plaisir, finalement, c'est effectivement ce que fabrique la société, pour aller vite, la société de spectacle et la société de consommation, me semble-t-il.
Alors, il peut y avoir des plaisirs, il y a un livre qui s'appelle « L'usage des plaisirs », il peut y avoir des plaisirs au service d'un désir, et puis il peut y avoir des plaisirs au service des pulsions. Donc, le plaisir peut être jouissif, purement jouissif, et donc essentiellement pulsionnel, même si le désir passe toujours par un moment de jouissance. Si vous, par exemple, si vous aimez la peinture... à un moment donné, vous avez une expérience picturale très forte, vous allez vivre quelque chose qui est proche de l'orgasme, qui est proche d'une jouissance, un phénomène d'extase. Et le désir passe aussi par là. Mais il passe par là, mais il ne s'en tient pas à ça. Il est un processus beaucoup plus complexe et il entretient la possibilité de renouvellement de ce moment par un soin, ce que j'appelle moi un soin, ce qui se dit en grec « thérapema », c'est-à-dire une thérapeutique. Donc le désir est de l'ordre de la thérapeutique. Par exemple, moi j'aime beaucoup les chansons populaires d'amour. Je les écoute maintenant beaucoup parce qu'elles racontent des histoires de... Vous connaissez sûrement deux chansons. Une qui est « Ne me quitte pas » de Jacques Brel et l'autre qui est « Tu te laisses aller » de Charles Aznavour. Bon, de quoi ça parle ces trucs-là? Ce sont deux vieux mecs qui disent à leur femme... Oui, on n'a pas arrêté de se taper sur la gueule, tout ça. Mais on s'aime encore. Mais on s'aime encore. Oui, t'es plus aussi belle qu'avant, oui, tout ça. Mais on s'aime encore. Et l'autre dit, arrête, tu te laisses aller, t'as des pas qui plissent, etc. Bon, mais je t'aime encore. Bon, ça, c'est vachement beau. Hein, c'est vachement beau. C'est vrai de la philosophie, c'est vrai de la géométrie, c'est vrai d'être prof. Bon, parce qu'être un vrai prof, c'est aimer enseigner. Hein, sinon, on n'est pas prof. Hein, bon, si on n'aime pas ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai de tout ce qu'on fait, même être flic. Bon. Et ça, c'est la réalité. Et c'est ça qui fait que les gens sont heureux. Alors ça suppose des thérapeutiques. Parce que il y a des tas de jours où on n'aime pas sa femme. Mais, ou disons, on a oublié, mais où on n'aime pas la Montagne Sainte-Victoire non plus. Qu'est-ce que fait Cézanne tous les matins? Il dit, attendez, la Montagne Sainte-Victoire, vous oubliez de l'aimer. Bon, et moi, je vais vous montrer pourquoi il faut continuer à l'aimer. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il l'a peint? C'est parce que lui-même, il a tendance à l'oublier. Bon. On est sans cesse en train de redescendre. Bon. Alors, il faut toujours essayer de remonter. C'est ce que j'appelle les thérapeutiques.
Merci Bernard Stiegler d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous pourrez retrouver un certain nombre d'articles et de retranscriptions de conférences sur le site de l'association Ars Industrialis. C'est sur internet www.arsindustrialis.org.
Et on peut podcaster les conférences.
Merci.